Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Ce sont les pages d'un livre consacré à Joseph de Nazareth, le père nourricier de Jésus, l'époux de Marie, que nous allons parcourir ensemble en compagnie de son auteur, Damien Leguet. Damien Leguet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre très personnel sur Saint Joseph. Non pas un livre d'histoire, mais plutôt une méditation sur un homme. Avec un style très particulier, qui est ce style, j'allais dire, à la Peggy, qui avance doucement, qui met un mot après un autre mot, comme on met un pas après un autre pas, qui est un style très... où il faut prendre son temps, où il faut rentrer dans le texte et puis se laisser bercer par la méditation. Mais vous dites surtout que vous avez voulu remonter à la source. Mais de quelle source parlez-vous concernant Joseph le charpentier ?
C'est-à-dire, ce qui est très extraordinaire concernant Joseph... c'est que d'une part, nous avons très peu de choses le concernant, donc il n'y a que quelques lignes, et c'est un des personnages sur lesquels, dans la Bible, on a le plus écrit. Et on a le plus écrit, disons, de deux manières différentes, soit de manière à prendre une distance infinie, à considérer qu'on ne peut parler de Joseph qu'avec une révérence absolue, ce qui, d'une certaine façon, crée une distance, elle aussi, absolue. Ou alors, comme effectivement c'est un peu la mode aujourd'hui, de considérer que Joseph fait partie de ce mensonge généralisé qui est celui de la Bible, qui est celui de l'Église. Disons, pour faire vite, la lecture de Dan Brown et d'autres. Hein, voilà. Donc il m'a semblé qu'il fallait écarter absolument ces deux façons de lire ou de comprendre Joseph, donc d'écarter le mensonge, ou d'écarter cette suspicion généralisée, d'écarter aussi cette révérence absolue.
Oui, la géographie absolue.
Voilà qui d'une certaine façon nous éloigne de lui, et en revenir effectivement à la source, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire à la fois aux textes tels que nous les connaissons, d'une part, et deuxièmement à cette proximité géographique, humaine, ce plain-pied que nous pouvons avoir avec un personnage, et avec surtout le texte. Voilà. J'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais enfin, j'ai essayé, un peu dans la lignée, par exemple, effectivement, vous citiez Peggy, je me souviens très bien de Peggy, qui, au moment où il a écrit son texte sur Jeanne d'Arc, a été critiqué par beaucoup, comme s'il y avait cette familiarité un peu déplacée qui était la sienne. Bon. Et donc cette familiarité-là, cette manière d'être de plain pied avec un auteur, me semble être une bonne manière d'en revenir à la source, à cette proximité avec des personnages qui sont des personnages vivants.
Alors Damien Leguet, pour expliquer comment vous remontez à la source, je voudrais lire un passage de votre livre. Avec Joseph et son histoire, en mettant nos pas dans ses pas, nous voulions retourner en arrière, sur la grande route des Juifs, faire le chemin à l'envers, tourner ses pas dans l'autre sens, retrouver, avec les paysages, le goût des mots mal taillés, comme le calcaire des collines de Galilée, comme les pièces en bois des charpentiers, ces mots aux odeurs de chêne, de cyprès, de genévrier, de térébinthe, aux saveurs d'olives, de figues, de raisins, ces mots où le vent venu de la grande mer, agite les blés et les feuilles des vignes et les forêts ombragées, ces mots de sable et de forte chaleur, ces mots en pâturage comme les troupeaux assoiffés de l'eau du Jourdain, c'est ce goût des mots d'origine brute, mal dégrossis et que les scribes n'ont pas encore taillé en diamants et en parures de concept, ces mots à peine sortis de terre et qui gisent là sous le vent et le soleil. C'est donc que vous enracinez, Damien Leguet, votre personnage dans sa terre, et qui est évidemment la terre de Palestine. Vous êtes allé vous-même dans ce... Non, on croirait à vous lire que vous y êtes allé de nombreuses
fois. Non, je n'y ai pas été, mais je me suis effectivement, ce qui est la moindre des choses, beaucoup documenté et essayé effectivement d'en revenir à la fois à la terre, aux plantations, aux arbres, au climat.
Aux éléments primaires.
Aux éléments.
Vraiment,
voilà.
aux éléments. Et ça, voilà. Ça ressent très fort dans votre texte. Alors, un mot sur votre titre, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de le citer, Damien Le Guay, Le couvre-tête de Dieu. Un joli titre. Joseph du village de Nazareth, c'est paru aux éditions du Cerf. Le couvre-tête de Dieu. D'où vous est venu ce titre tout de même poétique et étrange?
Il y a deux choses. La première, c'est que disons de Joseph qu'il est exposé à une très forte lumière. Voilà. Que quelque chose qui vient d'ailleurs, de Dieu, arrive sur lui et lui, donc, d'une manière ou d'une autre, a à se protéger ou à vivre avec. Voilà. C'est un peu, ça, c'est la première idée du couvre-tête. Et la deuxième idée du couvre-tête, c'est qu'il doit protéger, il doit vivre avec, il doit mettre en cocon, voilà, cette promesse, cette espérance, cet enfant qui va naître. Et puis la troisième idée, c'est que le couvre-tête, c'est aussi, disons, la kippa, enfin, voilà, cet élément de prière juive. Et Joseph est clairement à la jointure de l'ancien et d'un nouveau qu'il ne connaît pas, qu'il pressent sans doute. Enfin, voilà. Donc, on est bien dans une mentalité juive.
Et la kippa servant, il faut le rappeler peut-être, à montrer que l'homme est plus bas que Dieu et se couvre la tête. Voilà, c'est le sens
voilà,
de cette kippa.
Exactement.
En effet.
Voilà, voilà. Donc, c'est à la fois un sens qui est extrêmement pratique, enfin, voilà, et aussi cette confrontation qui sera la sienne avec un événement.
Trop fort pour lui.
Trop fort pour lui, voilà. Une lumière qui aurait pu le détruire, mais avec laquelle il doit, d'une manière ou d'une autre, vivre.
Alors, dans votre livre, Damien Le Guay, vous donnez des surnoms absolument magnifiques à Joseph. J'aurais voulu savoir d'où vous les aviez tirés, ces surnoms. Joseph des Charpentes, là, on comprend bien, il y a toujours des tirés. Joseph du début des Écritures par le Fils. Joseph des Plaines de Galilée. Joseph des Racines de Jessé. Joseph de la Jointure du Livre. Alors, pourquoi vous l'appelez comme ça, ce Joseph, avec des guillemets? On a l'impression, c'est traduit de l'hébreu ou c'est traduit de votre imagination?
Non, non, c'est pas traduit de l'hébreu, je ne parle pas hébreu. Non, c'est traduit, si vous voulez, du sens un peu déployé d'un nom. Voilà. Un nom comme Joseph dit et ne dit pas. Voilà. À force de répéter toujours les noms ou les prénoms, voilà, ces noms et ou ces prénoms perdent leur sens ou perdent leur vitalité. Et donc, si on essaye, ce que j'essaye de faire, de m'approcher au plus près du texte et donc de la personne, de faire d'une certaine façon une transfusion, quoi, enfin une proximité, une transfusion de sens, enfin quelque chose comme ça, voilà, il m'a semblé que donner à chaque fois des sens différents, comme il y a effectivement dans la tradition hébraïque, des sens oui. différents pour chaque nom qui nous paraissent simples, mais qui en réalité ont des multiplications à l'infini, c'était une façon, une manière d'orienter, de donner des facettes différentes à ce personnage qui en a effectivement beaucoup.
Alors Joseph, la page 96 de votre livre, vous dites Joseph, le mot Joseph veut dire que Dieu m'ajoute un autre fils ou que Dieu ajoute. J'ignorais cette définition du mot Joseph. C'est une jolie définition que Dieu ajoute. Alors Joseph, vous le décrivez d'abord, ce Joseph, comme un homme de l'attente.
Oui.
Parce que c'est un homme de la lignée juive. C'est un homme de l'alliance, c'est un homme de la fidélité. Je crois que vous avez une jolie définition dans votre livre. Vous pourriez peut-être nous la lire, Damien Le Guay.
Oui, effectivement, c'est à un moment donné où Joseph pense, voilà, et il dit, enfin, je lui fais dire plutôt, « J'attends, pensait-il, comme les autres, avec les autres, je suis de cette attente. Mes outils à la main, ma prière au cœur, aussi pure qu'une flamme et discret qu'une bougie, j'attends. Que la patience du Seigneur m'assiste au lever et au coucher, quand moi le courage des hommes ne s'atténue pas. »
Donc c'est un homme de l'attente, mais qui dit attente dit aussi vigilance, c'est-à-dire on n'attend pas comme ça que tout nous tombe du ciel, il faut aussi être vigilant, éveillé, en éveil.
Il m'a semblé effectivement que dans un monde, celui d'aujourd'hui, qui n'attend plus rien, enfin, qui est impatient de son impatience elle-même, enfin, et qui donc ne sait plus ce que c'est que l'attente, et donc ne sait plus ce que c'est que le désir aussi. Bon. Donc dans ce monde-là, en revenir à la source et en revenir à cette leçon de l'attente me semblait être une des leçons majeures d'un Joseph. Enfin, n'oublions pas que Rimbaud, par exemple, disait qu'il attendait Dieu avec gourmandise. Donc il y a une forme de gourmandise dans l'attente qui est celle de Joseph. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre ? Soit on attend quelque chose, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on attend effectivement une satisfaction immédiate, soit on est dans une extension, d'une certaine façon, dans une manière d'être toujours en devenir, hein, de considérer qu'il y a quelque chose devant nous qui est désirable, souhaitable, qui a une valeur. Voilà. L'attente, c'est cela. C'est quelque chose qui nous porte et qui nous porte à être toujours dans la quête, dans la recherche, de scruter dans le monde d'aujourd'hui, dans le nôtre, ce qui peut se révéler et révéler le monde qui vient. Voilà, c'est ça l'attente.
Et en se posant une question que Joseph se pose dans votre livre, mais moi, que puis-je faire ?
Exactement. C'est à la fois, enfin, l'attente, c'est à la fois une vigilance, être vigilant face au monde et déceler dans le monde qui vient, voilà, et en même temps, se dire que l'on peut être au service de cette attente. Il y a quelque chose de collectif dans l'attente, comme il y a quelque chose de collectif dans le peuple juif, comme il y a quelque chose de collectif dans l'attente du peuple juif. Toutes ces vertus-là, qui nous paraissent aujourd'hui périmées, lointaines, etc., sont ou peuvent être des vertus poétiques, au sens où elles nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous entrons et vis-à-vis duquel nous devons avoir une vigilance que nous avons grandement perdue.
En tant que philosophe, vous devez évidemment déplorer que nous vivions dans un monde sans attente, parce qu'un monde sans attente, c'est un monde sans espérance, et donc un monde sans vie, finalement.
Mais c'est surtout un monde sans futur.
Sans voilà. futur.
C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, et c'est pour cela...
Un monde de l'immédiat.
C'est pour ça qu'une figure comme celle de Joseph peut tous nous interpeller, comme on dit bêtement, mais parce que nous avons effectivement, pour avoir perdu la référence au passé et pour avoir perdu le goût de l'avenir, nous vivons aujourd'hui sur une passerelle du temps, un présent, qui écrase à la fois cet avenir qui n'existe pas et ce passé vis-à-vis duquel nous ne sommes pas en continuité. Enfin, du moins, nous n'avons pas conscience d'être en continuité de ce même passé.
Alors, c'est là qu'on voit que Joseph est effectivement un personnage très ancré dans la tradition juive. Il est juif lui-même, bien sûr, et certainement, ça devait être un juif pieux. Un autre aspect du peuple hébreu, non seulement il est dans l'attente, mais il est dans la marche. C'est un peuple qui marche, qui avance. Est-ce que Joseph est aussi de la race des marcheurs ?
C'est-à-dire qu'il y a deux façons, effectivement, d'attendre. Soit on est dans une position statique, qui consiste à dire « cela va arriver voilà. ». D'une certaine façon, nous n'avons qu'à mettre notre chaise dans le sens de l'histoire. Bon. Et puis, il y a l'autre race de ceux qui sont dans l'attente, c'est ceux qui vont de l'avant, qui ne considèrent pas que l'avenir vient à eux, mais c'est eux qui doivent aller vers l'avenir, et donc qui ont à marcher, à conquérir l'avenir, à s'approprier cette attente, à faire en sorte que le monde qui vient dépende de ceux qui, aujourd'hui, ont à le mettre en valeur et en exergue. Voilà. C'est pour cela, cette conjonction de l'attente et de la marche donne à cette figure de Joseph, mais à cette figure aussi derrière Joseph, qui n'en est qu'un élément, qu'un porte-parole, hein, pour autant qu'il parle beaucoup, l'espérance juive, voilà, qui nous traverse aussi, nous tous, dans notre conscience historique. Voilà. La conscience historique juive est aussi une conscience d'attente et de marche. À la fois le regard loin et une action concrète aujourd'hui pour aller de l'avant et faire en sorte que l'avenir dépende de nous, bien que l'avenir soit devant nous.
On retrouve Damien Leguet dans un court instant après cette petite pause musicale.
Vous écoutez Canal Académie.
Damien Leguet, le couvre-tête de Dieu, Joseph du village de Nazareth, s'est paru au Cerf avec une très jolie illustration d'ailleurs sur la couverture. C'est une peinture de l'église Saint-Hugues de Chartreuse, le songe de Joseph par Arcabas. On a parlé de Joseph, homme de la tente, de Joseph, homme de la marche. Il y a encore un autre aspect de Joseph, mais ça va avec les deux. Homme de l'espérance et de la confiance, c'est-à-dire qu'au moment où il devrait douter le plus, c'est-à-dire au moment où il s'aperçoit que sa fiancée attend un enfant et que finalement il pourrait douter à la fois d'elle et de ce qui lui arrive, eh bien c'est un homme qui ne doute pas. Mais en même temps, il s'interroge, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, cette chose-là?
Alors il y a deux choses. La première, c'est que, donc on a parlé de l'attente, on a parlé de la marche, bon. Comment maintenir ces deux équilibres-là dans l'espérance juive? Ces deux équilibres-là sont maintenus dans l'idée, effectivement, suivant laquelle Dieu est au-delà. Voilà. C'est cet au-delà de nous qui nous maintient aujourd'hui en confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'épreuve que vit effectivement Joseph peut être comprise de deux manières différentes. Soit on considère que Joseph doute. Il peut douter de deux manières différentes. Il peut soit douter de Marie,
oui,
de sa fidélité, soit il peut douter de Dieu.
Oui.
Mon hypothèse, enfin, ou du moins l'axe de mon livre, consiste à dire qu'il ne doute ni de l'un ni de l'autre. Et ne doutant ni de l'un ni de l'autre, comme disons, il tient les deux bouts de cette confiance-là, eh bien, il considère, lui, à ce moment-là, que si la faute, entre guillemets, n'en revient pas à Dieu ou ne revient pas à Marie, la faute lui revient à lui. Et que lui, d'une certaine façon, est de trop. C'est-à-dire qu'il a, à un moment donné, conscience que ce qui se passe, ce qui advient, le dépasse tellement que, d'une certaine façon, lui n'a pas sa place dans l'attente, dans les desseins de Dieu. Et donc, de cette façon, toujours pour rester sur notre idée de l'avenir, de l'attente, de l'espérance, l'attente arrive beaucoup plus vite que lui-même, d'une certaine façon, ne l'attend. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de plus fort, de plus incroyable qui advient. Voilà, cette naissance qui doit, et lui doit tenir, cette confiance en Dieu et cette confiance en Marie. Et donc, il dit, voilà, moi je suis de trop, je ne suis pas, ce n'est pas pour moi. Voilà. Et comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, il ressent son indignité. Voilà. Il est indigne de ce qui se passe. Et donc, étant indigne, il s'en va et considère qu'il doit laisser la place. Voilà. Et donc, comme tous les prophètes, hein, il y a ceux qui s'en vont de Ninive, il y a ceux qui partent et qui se font rattraper par la baleine, enfin, etc. Voilà. Et donc, il s'en va. Voilà. Et c'est là où, effectivement, Dieu le rattrape.
Par son ange.
Voilà, Dieu le rattrape
de Dieu.
Et lui dit, non, c'est bien, contrairement à ce que tu peux croire, contrairement, tu as bien fait de ne douter ni de l'un, ni de l'autre, ni de Marie, ni de Dieu, voilà, mais tu as ta place, voilà, quelle que soit ton indignité personnelle, quelque chose advient, et ce qui advient passe aussi par toi.
Alors, un petit extrait du livre de Damien Le Guay pour pouvoir comprendre Joseph, homme de l'attente et de la fidélité. Joseph espère plus qu'il n'attend. Il fait confiance à la confiance plus qu'à sa propre étoile. Joseph est le fils de la fidélité. Il fut choisi sans trop savoir pourquoi. Le regard du maître était sur lui, il le sut, voilà tout. Qu'allait-il se passer maintenant? Joseph l'ignorait. Qui peut connaître le secret d'un ciel aux couleurs d'aquarelle juste délaissé par son soleil, ou le secret des neiges presque rousses qui dégoulinent comme cire de bougie sur les hauteurs du mont Hermon, ou le secret des arbres arrachés par la bourrasque et qui meurent, cul par-dessus tête, les racines ébouriffées et les houppiers solaires à même le sol? Personne. Il attendait que souffle la tempête, que se lève la neige en plein désert et que la bourrasque tape des mains et frappe des pieds, vrille des branches d'arbres et fasse résonner les entrailles de la terre. Il était dans l'attente et le maître voulait savoir. Joseph était-il de ces hommes submergés par la peur à la moindre agitation des eaux ou bizarrerie du climat? La fidélité de Joseph lui était-elle acquise en bloc, d'un seul tenant, dans une seule et même générosité, sans repentir, taillée dans une seule et même pierre? Oui, Joseph a la solidité des cyprès de son pays et sa prière d'attente bout dans sa tête comme du raisin écrasé. Le choix est bon. Joseph sera le couvre-tête de Dieu. Son chapeau de paille au temps des fortes chaleurs, son auvent dans l'attente du moment des moissons, son auvent dans l'attente du moment des moissons, son paillasson aux marches du monde, son marchepied à la veille de son temps de parole. Cela donne une idée aussi de votre style, toujours très poétique, où la nature est toujours très proche. Enfin, Damien Le Guay, ce qui vous a agacé, il faut bien le dire, c'est tous ces codes, codes David Chicode et autres codes, qui finalement, sans véritablement parler d'un mensonge, introduisent la suspicion, comme vous l'avez dit, une suspicion généralisée, c'est-à-dire on ne croit plus à rien ni en personne. Alors, est-ce qu'il y a un code Joseph? Qu'en dites-vous?
En fait, deux choses. Première, en écoutant ce texte, une des leçons du livre, c'est de dire que les batailles de l'esprit, on sort d'un siècle où on a connu les batailles de l'histoire, les batailles idéologiques. Bon. Les batailles de l'esprit, qui sont effectivement celles de Joseph, ont leur importance, elles sont réelles, et elles sont, nous dit Rimbaud, aussi fortes, aussi importantes que les batailles d'hommes. Donc il faut bien prendre conscience de cela et en revenir un peu mezzo voce face à une cacophonie idéologique que nous avons connue au siècle dernier, en revenir à une prise, à une écoute de ces batailles de l'esprit qui sont ô combien importantes. Alors le code Da Vinci, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes de plus en plus, il suffit de voir le succès du code Da Vinci, dans cette suspicion généralisée, ce complot que l'on pressent, que l'on dit de tout. Voilà. Et donc, il y a cette phrase magnifique de Chesterton que j'ai déjà citée dans un livre précédent, mais qui est magnifique. « Ne plus croire en Dieu, ce n'est plus croire en rien, c'est croire en tout. » Et je crois que nous sommes effectivement arrivés à un moment où la crédulité est absolument généralisée. On devient incroyant, et en devenant incroyant, on ne croit pas à autre chose, on est capable de croire à tout, et donc à n'importe quoi. Bon. Et ce règne du n'importe quoi, c'est-à-dire de la suspicion, d'une nouvelle clé qui permet de démonétiser toutes les explications précédentes, ces histoires abracadabrantesques dont on nous bassine la tête à longueur de journée, bon, tout cela flatte l'homme moderne d'aujourd'hui qui croit qu'il y a du mensonge partout et que l'Église, l'Évangile, est un mensonge, le dernier mensonge sans doute que l'on est capable de démythifier. Voilà. Mais, et c'est cela mon idée, faire cela n'est pas seulement aller à l'encontre de la vérité historique des textes tels qu'ils sont. Qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, c'est un autre sujet. Je parle des textes eux-mêmes, de la tradition, etc. C'est aussi aller à l'encontre de cette confrontation que nous devons avoir à l'égard de l'autorité, de l'écriture, à l'égard de la culture, à l'égard de ces textes qui nous fascinent, à l'égard de ces textes que nous pouvons lire, qui nous forment et qui sont susceptibles de faire advenir en nous un plus que nous-mêmes. Voilà. Donc si on considère qu'on peut advenir par soi-même, comme celui qui voulait, en se tirant les cheveux, sortir de la mare, si on croit cela, eh bien, on reste dans la mare, on reste dans la barbarie dont parlait Platon. On ne se forme pas. Voilà. Et se former, c'est aussi faire confiance à ces textes, à ces confrontations textuelles qui donnent sens à ce que nous sommes, en même temps qu'ils donnent sens à la lecture que nous avons de ces textes qui font autorité. Voilà. Et donc, tous ces textes, tous ces codes Da Vinci et autres, en détruisant la crédibilité des évangiles, pour ne parler que des évangiles, en détruisant cette crédibilité, détruit aussi la capacité que nous avons, nous, êtres humains, à nous découvrir en même temps que nous lisons. C'est la lecture, c'est la confrontation au texte qui nous permet de nous former, de devenir ce que nous ne sommes pas naturellement et que nous devenons grâce à la compréhension que nous avons des textes formateurs. Voilà,
Damien Le Guay, vous l'avez compris, n'a pas écrit une simple biographie imaginaire de Joseph de Nazareth, mais bien une réflexion et aussi une méditation avec sa dimension poétique. Je ne saurais que vous recommander de le lire, Le couvre-tête de Dieu, Damien Le Guay, aux éditions du Cerf en 2008. Merci Damien Le Guay.
C'est moi qui vous remercie.